arrivée jusqu'à ici avec ce temps. Ah, c'est incroyable. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette restitution de résidence paysage et bien commun. C'est un partenariat, notre deuxième partenariat d'ailleurs, de résidence avec le PNR Mille Vaches en Limousin, et je suis vraiment ravie qu'on a pu faire ce projet ensemble. La résidence avait pour objet d'inviter un ou une artiste et un ou une scientifique binôme, d'interroger la notion du paysage liée à la dimension du bien commun. Alors ce sont deux concepts assez vastes, bien sûr, et peut-être même difficiles à définir avec précision, mais réunis ensemble, ils nous permettent de poser des questions à la fois politiques, philosophiques et éthiques. Dans le contexte actuel, la protection des paysages naturels est de plus en plus urgente, et l'idée même du bien commun est menacée par la privatisation des ressources naturelles. Le SIAP et le PNR donc, ont souhaité inviter les artistes et les scientifiques à proposer une vision singulière et créative de ces deux objets d'étude. Guillaume Lebody, anthropologue, et Florence Villay, designer textile et artiste, ont répondu à l'invitation avec ferveur, mais aussi une approche très sensible. Ils ont tous les deux arpenté le territoire du parc et se sont allés à la rencontre de nombreux habitants pour nourrir leur recherche et leur création. Et d'abord, je remercie tous les participants, tous les habitants du territoire qui ont partagé leur temps et leurs expériences avec Florence et Guillaume. Qui vous parlera, bien sûr, sous peu de le fruit de leur recherche et expérience. Mais tout d'abord, je tiens à remercier le PNR pour ce précieux partenariat, notamment son président Philippe Rugère, et plus particulièrement René Nicou, Gérard Savia, vice-président, et Fanny Couenias et Florence Leplay, qui sont respectivement chargées de mission patrimoine bâti et culture et paysage, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration et a eu aussi plein de discussions stimulantes en cours de l'élaboration de ce projet. Un grand merci également à toute l'équipe du SIAP Vassivière, et en particulier Camille Garchel-Hautefeuille, quelque part, voilà, coordonnatrice artistique, tu arrives parfaitement à temps, pour avoir mené ce projet avec grand soin, et aussi à Alexandre Barthes, notre régisseur, pour son soutien technique. Merci à vous tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Et surtout, merci à toi Florence et à toi Guillaume pour avoir partagé cette expérience avec nous et de nous partager aussi les résultats. J'invite Gérard à vous adresser quelques mots. You don't know my mind. And if you hear me laughing, yes, I'm laughing just to keep from crying. If a smiling face is what you see, you can't tell what may be worrying me. You don't know.
Effectivement, donc on a préparé chacun notre texte. Il va y avoir des redites un petit peu dans ce que je vais vous dire. Donc, je me présente, Gérard Savia, vice-président du PNR Mille Vaches. Et effectivement, je suis en charge au PNR Mille Vaches du paysage et de la forêt. En cette année 2024, le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière et le PNR, donc Parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin, ont fait l'effort de supprimer les abréviations, les trigrammes, parce que finalement on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc j'insiste, Parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin. Ces deux structures ont solidairement souhaité cette résidence, art et sciences, sur le thème paysage et bien commun. Ils l'ont confié donc à un binôme, un anthropologue Guillaume Lebody et une artiste designer textile feutrière Florence Oulay. Le fruit de cet ouvrage collectif va nous être proposé dans les minutes qui suivent par le duo, hein, par Guillaume et Florence. Pour le PNR de Mille Vaches en Limousin, donc le paysage, c'est stratégique. Ce sont ces paysages que nous avons dans leur diversité et dans leurs caractéristiques, ces paysages patrimoniaux qui ont permis le classement du territoire en parc naturel régional, et ceci il y a 20 ans. Alors, le paysage, c'est une étendue spatiale couverte par un point de vue résultant de l'action et de l'interaction de facteurs naturels et ou humains. Un parc naturel se caractérise par un territoire habité et des espaces qualifiés de naturels. Le bien commun, c'est une notion développée par la théologie, la philosophie et le droit qui désigne l'idée d'un bien partagé par les membres d'une communauté. Alors, une étendue spatiale, une propriété architecturale, une propriété agricole ou civilcole, cette étendue spatiale, elle a des fonctionnalités usagères qui appartiennent au propriétaire. Mais son aspect, ses caractéristiques esthétiques et paysagères sont exposées à l'appréciation visuelle de celui ou ceux qui la visualisent. Notre duo artiste-scientifique va nous faire parcourir un itinéraire initiatique et éducatif afin de nous permettre l'appropriation du paysage, le partage sociétal, l'appréciation du commun. L'itinéraire, nous devrons le parcourir chacun à notre rythme. Et ceci, c'est l'affaire de chacun de nous, individuellement et au moment qui nous semblera le plus opportun. Parcouru aujourd'hui, nous lui découvrirons des caractéristiques singulières, je ne parle pas du climat, qui pourront être l'objet d'échanges avec ceux qui nous entourent. Et demain, dans un autre contexte sociétal, cet itinéraire paysager trouvera sans doute à nos yeux d'autres saveurs. Je vous souhaite une belle découverte, une belle expérience initiatique. Tous nos remerciements, comme l'a dit Alexandra, tous nos remerciements aux financeurs, bien sûr. Alors l'Europe, via le GAL Monts et Barrages, la région. Merci à toi, Alexandra, au SIAP et à son équipe. Merci à notre binôme, artistes, scientifiques, et à tous ceux, et ils sont nombreux, croyez-moi, qui ont été interviewés par leurs soins au cours des 3 derniers mois. Je crois que ça, c'est important. Hein. Tu l'as souligné, Alexandra. Vous avez été accueillis l'un et l'autre sur le territoire par pas mal d'interlocuteurs. Et ça contribue à ce regard pluriel. Donc, qui ont été interviewés par votre soin au cours des 3 derniers mois. Merci aux agents et aux élus du parc. Nous sommes 3. Le président vous prie de bien vouloir excuser, mais vous savez, il y a la conférence des maires alors, en France en ce moment, donc effectivement, on est très sollicités à droite et à gauche. Merci à tous ceux qui êtes là aujourd'hui. Alors là, franchement, vu les conditions climatiques, nous échangeons tout à l'heure, on ne pensait pas que vous soyez aussi nombreux. Et on aurait compris qu'au dernier moment, vous disiez, bon, finalement, c'est un peu difficile. Merci à vous tous qui serez, dès demain, les ambassadeurs du territoire en matière de paysage. Nous avons besoin d'ambassadeurs du paysage. Merci par avance à tous ceux qui contribueront à l'itinérance et à la vulgarisation des 2 œuvres artistiques qui vont nous être présentées. Parce que ces œuvres, pendant 2 ans, elles vont circuler sur l'ensemble du territoire du parc et donc elles auront besoin d'être valorisées à chaque fois, d'être présentées, d'être... Merci par avance à tous ceux qui contribueront donc à cette itinérance et à la vulgarisation des 2 œuvres artistiques dans leur parcours conjoint, ça c'est important, hein, les 2 œuvres que nous allons pouvoir apprécier sont solidaires pendant ces 2 ans. Écoutez, sur ces bonnes paroles, belle découverte à tous. I was broke, I was hungry when I came to town. You said, keep on walking, but it don't slow down.
Je vais commencer par la présentation par présenter un peu le début de la résidence, et puis moi aussi, comme en tant qu'artiste, je me suis un peu appropriée les thématiques de paysage et bien commun qui sont les thématiques de notre présence ici. Je me présente rapidement, donc je suis Florence Huillet. Je suis designer textile et lainière, comme l'a dit Gérard, et je suis diplômée de la Haute École des Arts du Rhin sur le site de Mulhouse. Et je me suis spécialisée il y a 7 ans dans la technique du feutre de laine, que je vous expliquerai un peu plus tard. Avec Guillaume, on se connaissait déjà un petit peu avant de répondre à l'appel à résidence. Et donc je lui ai proposé qu'on réponde ensemble, puisque les thématiques du paysage et du bien commun sont assez présentes dans nos pratiques respectives. Et elles nous ont vraiment beaucoup intéressées, surtout celle du bien commun qu'on a renommée « bien-être commun » dans notre candidature. Le déroulement de la résidence s'est passé en plusieurs temps, notamment un temps d'arpentage du territoire au mois de septembre. On ne connaissait pas du tout le territoire du Limousin, c'était la première fois qu'on mettait les pieds ici. Donc il a fallu découvrir le territoire, et ça s'est fait assez empiriquement, je dirais, naturellement, de rencontre en rencontre. On a vagabondé sur le territoire du plein air que vous avez juste là, dans l'idée en fait de questionner ces deux thématiques-là sur le territoire du plein air. En parallèle de cet arpentage sur le territoire, on a beaucoup étudié ces thématiques-là dans les ouvrages, dans les bouquins, pour essayer de définir au mieux qu'est-ce que c'est un paysage, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de bien commun associée au paysage. Mais on a là, il y a sur le mur, un peu nos cartes mentales de toutes nos réflexions sur ces... À la fin du mois de septembre, donc début octobre, moi j'ai eu besoin de remettre un peu les mains dans la matière, parce que c'est mon travail, je ne suis pas forcément théoricienne, donc j'ai aussi besoin d'être les mains dans la matière pour réfléchir, et j'avais aussi besoin de rencontrer des habitants pour essayer de percevoir le paysage différemment, de percevoir à travers les yeux aussi des gens qui le vivent, c'est ce qu'on avait fait aussi au mois de septembre, mais de d'arpenter un peu ce territoire seul avec ma sensibilité aussi d'artiste. Et j'ai interviewé ces différentes rencontres. Donc j'ai gardé une trace de ces paroles d'habitants qui sont retranscrites dans l'œuvre que vous découvrirez juste après. Et donc la deuxième partie de ma résidence a vraiment été un aller-retour entre les mains dans la matière, donc juste derrière vous sur le mur. Juste en face de moi, il y a un peu toutes mes références qui m'ont nourrie, des essais de matière avec la laine bien sûr. Et en même temps, j'étais au contact d'habitants pour récolter ces visions de paysage. Et en fait, l'idée, c'était vraiment pour moi de comprendre à quoi les gens ici étaient attachés, qu'est-ce qui les émeut dans leur paysage du quotidien. Ce qu'on ne peut leur voler, c'est... Ça, c'est une référence à un ouvrage qui nous a beaucoup parlé avec Guillaume, qui s'appelle « La charte du Verstollen », qui a été écrit par Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio. Et le sous-titre, c'est « Ce qui ne peut être volé ». Et on a trouvé avec Guillaume que c'était vraiment un ouvrage assez constructif dans notre réflexion. Donc je me suis un peu basée là-dessus aussi pour mes différentes rencontres. Je ne vous dévoile pas encore ce que j'ai fait, parce que je vous le présenterai dans l'autre salle. Mais ça vous donne un petit peu un contexte de comment moi j'ai travaillé. Il y a quelques petites choses à savoir qui ont vraiment en tout cas marqué mon séjour ici. C'est notamment une rencontre, donc celle avec René et Roland Dupont. Et notamment la discussion autour des maçons de la Creuse, qui moi m'a profondément touchée. En tout cas, notre discussion a vraiment nourri mon projet ici. Et évidemment, toutes les rencontres avec les habitants qui ont participé finalement à l'élaboration de mon projet, que je vous présenterai après. Voilà, je laisse la parole à Guillaume.
Bien, merci, ça ne va pas être facile, parce que Florence a pratiquement tout dit. Petite private joke entre nous. Guillaume Lebaudy, un anthropologue, c'est un universitaire autodidacte, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a fait des études, mais avec une grande curiosité. Et cette curiosité, donc, je suis venu l'exercer sur ce territoire qui m'a fort surpris parce que, un, je ne le connaissais pas, et deux, il m'a d'abord sidéré, et peut-être même, dans un premier temps, étouffé. Donc, l'anthropologie, c'est un jeu sur la distance. Il a fallu faire des allers-retours sur le terrain, avec les gens, sans les gens aussi. Et puis, ça a été un chemin. Une enquête d'anthropologie, c'est d'abord marcher, C'est d'abord marcher dans sa tête. Donc, comme le disait Florence, on a beaucoup réfléchi autour de cette problématique qui n'est pas simple. Paysage et bien commun, même si on l'a tordu un petit peu en disant paysage et bien être commun, parce qu'en effet, c'est une histoire d'habiter d'abord, donc d'être là, de savoir ce qu'on y fait, de savoir comment on tient ce paysage, et vous verrez que c'est une partie du travail que je vais présenter, et comment on tient au paysage aussi. Et en effet, la lecture, dans un premier temps, de la charte du Verstollen de Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio, donc une psychanalyste, philosophe et un designer, a été très importante pour nous, parce qu'elle nous a permis d'analyser les choses en regard de ce qui ne peut nous être volé, ce à quoi on tient, finalement, à travers notamment la question de soins et la question de soins apportés à notre environnement. Question de soins apportés à notre environnement, évidemment, ça nous renvoie à ce que sont les paysages et à la façon dont ils sont gérés, à la façon dont ils ont été métamorphosés aussi au fil du temps, comment ils se sont façonnés, parce que les paysages sont ce qu'on en fait. Et c'est de ça dont il a fallu qu'on prenne conscience dans un premier temps. Et je vous garantis que ça n'a pas été facile, parce que les paysages d'ici ne se livrent pas, ne se donnent pas à lire comme ça d'emblée. Vous n'arrivez pas et vous n'avez pas tout de suite une lecture évidente de ces paysages. Sont des paysages mosaïques, des paysages complexes avec des imbrications de forêts, de cheminements, de grands espaces ouverts, de landes et de tourbières. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et puis des paysages humains aussi qu'on a découverts. Et en effet, en discutant avec René et Apollon Nicou, qui nous ont beaucoup parlé des maçons de la Creuse, ils nous ont confirmé ce que moi je supputais en ayant déjà travaillé sur des mouvements de mobilité. Beaucoup de gens sont partis d'ici et ça n'a pas été sans peser sur l'histoire de ce territoire et sans peser sur le destin et la fabrication des paysages d'ici. Donc on est parti avec toutes ces histoires parfois pesantes, parfois amusantes, magnifiques souvent, et il a fallu qu'on fasse avec ça, en quelque sorte, avec ce substrat à la fois humain, historique, géographique, géologique aussi. Vous allez voir que la question de la géologie m'a beaucoup agité, d'ailleurs. La question des rivières, puis la question des chemins aussi. Vous avez un patrimoine de chemins extraordinaire, sachant qu'en France, depuis la libération, depuis 1945, 25% des chemins ruraux ont disparu. Ici, j'ai l'impression quand même qu'ils se sont bien maintenus, quoi. 200 000 km de chemins en France ont disparu en l'espace de 50 ans. C'est quand même assez énorme. J'ai le sentiment ici qu'il y a des gens qui travaillent pour que le chemin reste vivant et qu'on puisse encore parcourir ce territoire. Parcourir ce territoire, ça veut dire qu'on peut se l'approprier. Et se l'approprier, traverser les paysages, c'est une façon de dire qu'on y tient quand on les défend, bien sûr. On a rencontré plusieurs personnes comme ça qui sont impliquées dans des associations, dans des collectifs qui défendent ces chemins. Certains se mettent même en tête de rebâtir des ponts, restaurer des ponts, de manière à ce qu'on puisse encore franchir les rivières par ces chemins-là. Donc, pouvoir parcourir un territoire, tenir au chemin, tenir au paysage, les défendre, le dire, le faire savoir, monter des collectifs pour ce faire. Voilà comment ici, en Limousin, il nous a semblé qu'on tenait au paysage et comment on tient le paysage aussi. C'est un des rôles du PNR, notamment, d'accompagner les agriculteurs, les éleveurs, les qui sont aussi des grands acteurs du paysage, de les accompagner dans leur démarche. Je pense notamment à notre rencontre avec Cédric de Guillaume sur la montagne. Oui, la montagne, oui, on peut vraiment dire la montagne. Le Sucomet, à la ferme de la Monodière, qui nous a expliqué comment lui, il tenait le paysage. Et non seulement il nous l'a expliqué, mais vous verrez dans les photographies qui sont ici, dans cette espèce de cueillette paysagère que j'ai pratiquée par la photographie, par l'image, vous verrez qu'il y tient vraiment, puisque à un moment donné, il y a une image où il tient les myrtillers. Il tient la terre, il montre qu'il y tient vraiment. Donc la question de tenir les paysages, tenir au paysage, c'est, je pense, quelque chose qui a été fondamental dans notre réflexion et qui nous a donc mené sur la question de l'articulation entre paysage, et je mettrai un S à paysage parce que ce sont pour moi des paysages, c'est des paysages mosaïques, et bien commun comme quelque chose auquel on tient, quelque chose qu'on a en nous, qui nous parcourt, qu'on habite, mais qui nous habite davantage qu'on les habite, finalement. Et c'est pour ça qu'on y tient autant. Alors vous verrez dans le travail qu'on va vous proposer, j'espère que vous y trouverez une résonance à tout ce que je viens de vous expliquer, Vous verrez que dans le mien, il y a pas mal de lectures. Dans celui de Florence, il y a beaucoup à écouter. Donc, on passe beaucoup par les mots, mais aussi par le ressenti. On espère que, par notre travail, on arrivera à faire prendre conscience que le paysage, c'est d'abord des sens. C'est d'abord une question de sens, de sensibilité, certes, mais aussi, et de sensualité, j'allais dire, aussi. Mais aussi de sens dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'un paysage, on ne se l'approprie bien que quand on le traverse, c'est-à-dire qu'on y marche, qu'on voit les choses, mais aussi qu'on les sent, qu'on les goûte. Vous savez bien qu'un fromage n'est jamais aussi bon qu'après une longue marche. Qu'on les touche, et quand on traverse ces paysages-là, on touche du bois, on touche de l'eau, on touche de la pierre. Voilà, et voilà. Et puis qu'on y est, tout simplement, et qu'on les habite. Voilà. Brièvement résumé, et simplement pour vous dire aussi que moi, en tant qu'anthropologue, j'étais très touché par le fait qu'il y ait énormément d'acteurs qui, sur ce territoire, crient haut et fort, en tout cas disent haut et fort, et parfois crient quand c'est nécessaire, qu'ils tiennent à certaines formes paysagères, à certains endroits, et qu'ils mettent les moyens en place, notamment en matière de développement de savoir, et de développement de savoir juridique, notamment pour les défendre. Ça, ça m'a beaucoup touché. On ne rencontre pas ça partout. Et j'espère qu'on le rencontrera longtemps ici. Voilà, je vous remercie. Mais un peu quand même, hein, Florence, c'est la rive de Bretagne, moi je suis normand, donc qu'il y ait de la tempête aujourd'hui, c'est tout à fait normal. On avait convoqué les éléments pour que ce soit un temps fort, évidemment. Une inauguration est toujours un temps fort. Alors derrière vous, vous avez le travail que j'ai effectué. C'est un chemin, c'est d'abord un chemin d'écriture. Imaginez-vous que c'est un livre en quelque sorte, mais c'est aussi un objet. C'est un objet livre à regarder longtemps. Comme disait John Cage, une chose devient intéressante à partir du moment où on la regarde longtemps. Donc c'est un objet d'abord qu'on peut regarder longtemps, et ensuite qu'on peut ouvrir et qu'on peut lire. Et il y a 128 mètres d'écriture d'un côté, et de l'autre côté il y a 100 mètres d'écriture. Donc vous pouvez aussi les faire à pied. Ça fait 250 mètres à faire, c'est pas très long, mais si vous étalez le livre, vous pouvez aussi marcher dans votre tête et vous imaginez marcher dans le paysage. Cet objet livre, c'est un objet à plusieurs dimensions. Déjà, il y a deux livres, puisque c'est ce qu'on appelle un leporello, qui s'ouvre en accordéon. Une partie s'appelle tenir, vous n'allez pas être surpris, je l'ai dit tout à l'heure, tenir haut, tenir le paysage. Et une autre partie, c'est-à-dire le verso, s'appelle cueillette. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est un herbier de paroles. Et ce sont des paroles que j'ai recueillies au fil de mes rencontres avec vous, toutes et tous ici, enfin certaines personnes qui sont là. Et donc, j'ai pris la liberté de citer, mais sans jamais les identifier, simplement en les rattachant à un lieu. Et puis, vous allez découvrir aussi que dans cet ouvrage-là, il y a ce que j'ai appelé les koans pour le paysage, qui vient d'une pratique méditative. Les chemins, comme je vous indiquais, je les ai beaucoup parcourus ici, et je me suis souvent assis sur une pierre ou sur un bout de bois, simplement pour méditer, en étant simplement là pour écouter ce que le paysage avait, comme je vous disais, c'est une affaire de sens, écouter ce que le paysage avait à me raconter. Et le paysage, en fait, m'a posé énormément de questions, et m'a souvent posé des questions dont les réponses n'existent pas, qui sont des questions insolubles. C'est la définition même de ce qu'est le koan. Le koan, c'est souvent les questions que pose le maître zen à son élève. Et en général, quand l'élève réfléchit à ce que le maître lui a posé comme question, il reste bouche bée parce qu'en effet, il n'y a pas de réponse. Ce qui n'est pas intéressant, c'est de trouver une réponse. C'est la recherche qu'on va mener à partir de la question qui vous a été posée. Donc, les koans pour le paysage, normalement, si vous les lisez, devraient générer ça aussi chez vous. Il y en a toute une série. Ils ont été glanés en quelque sorte donc à l'écoute du paysage pendant que je marchais dans divers endroits, et donc viennent ouvrir le verso de l'ouvrage. Vous retrouverez ces koans aussi dans une projection, je ne sais plus comment l'appeler, parce que maintenant elle est sur une télévision. Donc en fait c'est une suite d'images Et là aussi, ce sont des sensations que j'essayais de capter à travers la photographie et que j'ai mélangées avec les koans. Donc l'image nous questionne, les textes des koans nous questionnent aussi en rapport avec les images. En tout cas, c'est une traversée du territoire. Et en disant ça, je cite Gilles Tiberghien, qui est un des grands théoriciens du paysage et du land art, qui dit « le paysage est une traversée ». Parce qu'en effet, ce qui me semble intéressant à prendre conscience à travers nos deux travaux, c'est que le paysage, ce n'est pas simplement rester là et regarder quelque chose de statique, mais bien de le traverser. Et tant qu'on pourra traverser les paysages, ce sera aussi nos biens communs. Voilà, je laisse la parole à Florence.
Le dispositif que j'ai créé, ça n'a pas été évident de transcrire l'étude de terrain qu'on a fait en objet. Je vous avoue que je me suis pas mal torturée les méninges. Et en fait, je me suis posé assez simplement la question de... qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis en balade, quand je suis dans un paysage et que j'ai envie de le contempler ou de le ressentir ou simplement de me reposer. Et en fait, instinctivement, le corps, en fait, a besoin de ralentir et donc il cherche un endroit pour s'asseoir. On s'assoit en général pas par terre quand on est en randonnée parce qu'après, c'est difficile de se relever. Donc on cherche une pierre, un bout d'arbre tombé. En tout cas, quelque chose pour s'asseoir, pas au sol. Et là, j'ai eu comme une illumination. J'ai repensé finalement à cette histoire des maçons de la Creuse et à ces roches de granit, à ces pierres. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, il faut que le dispositif que je crée, ce soit un banc en pierre sèche. Sauf que, comme vous l'a dit Gérard, le PNR récupère les dispositifs pour les déployer pendant 2 ans sur le territoire. Et il fallait que les œuvres soient transportables. Or, un mur en pierre sèche n'est pas transportable. Et tout comme le granit est le socle du paysage du Limousin, la laine n'est pas en reste, puisque avant qu'il y ait cet énorme couvert forestier ici, c'était que des landes et des tourbières qui étaient pâturées par les moutons. Donc la laine a aussi une vraie place, elle est vraiment intimement liée au paysage et à sa construction. Et aussi, je ne parle pas de Feltin, la ville de la laine, où se tient tous les ans les journées nationales de la laine et les journées du feutre. Et pour moi, c'est ma matière de prédilection, donc j'ai vraiment trouvé un sens à faire en fait ces roches en laine. Donc tout est en laine, elles sont faites de feutre de laine, donc il y a une technique qui consiste à amalgamer les fibres par unité et frottement. Donc c'est une technique qui est très physique, parce que je fais tout à la main. Donc un peu comme un maçon, un sculpteur de pierre a une pratique très physique, celle du feutrier l'est aussi. Et tout est rembourré de laine. Et donc l'idée, c'était que chaque pierre vienne se poser les unes sur les autres pour se soutenir comme le font les maçons lorsqu'ils font un mur en pierre sèche. Bien sûr, c'est une inspiration. Là, j'ai dû faire des grosses pierres qui ressemblent plus à des galets. Le temps m'a manqué. Tout à l'heure, je vous parlais des interviews que j'ai faites des habitants. Et j'avais envie vraiment qu'on puisse écouter les gens qui vivent ici parler de leur paysage. Parce que je trouve que c'est aussi vous qui l'habitez tous les jours, qui savez le mieux en parler, de façon très sensible, sans filtre presque, j'ai envie de dire. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse écouter ces personnes-là avec ce dispositif. Et donc il est équipé pour le moment d'un casque, il y en aura 2. Et dans lequel, en fait, j'ai monté un audio d'à peu près 8 minutes où on écoute des extraits de ces... De ces interviews que j'ai faites. L'idée avec ce banc, c'est qu'il puisse être installé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et que le PNR soit vraiment impliqué avec ce projet, qu'il puisse en fait le déployer lors d'événements qui sont organisés tout au long de l'année, et qu'il puisse vraiment s'imbriquer avec d'autres médiations paysagères que fait le PNR ici, et que les gens puissent s'asseoir, s'ils n'ont pas envie de forcément d'écouter, de simplement regarder, se poser, contempler les paysages qui s'offrent à eux ou que le parc a envie de leur faire regarder. Donc évidemment, la construction du banc fait référence à l'histoire des maçons de la Creuse, donc je le disais, à ma technique de prédilection, la laine, et également la forme, elle a aussi été réfléchie, donc c'est pas un banc droit comme on a l'habitude de trouver. C'est un banc en demi-cercle pour favoriser justement l'échange et le partage. Lorsqu'on est assis dessus, les gens peuvent se voir, peuvent échanger, peuvent dialoguer sur ce qu'ils auront écouté, ou en tout cas ce qu'ils regardent. En tout cas, le moment qu'ils partagent. Et l'idée du banc, c'était aussi questionner l'objet en lui-même. Le banc, c'est un objet banal qu'on trouve partout, dans les villes, dans les campagnes, qui appartient à tout le monde, mais à la fois à personne. Tout le monde peut en avoir un usage. C'est un peu un mobilier du commun. Et ce qui m'a beaucoup intéressée avec cet objet-là, c'est de pouvoir justement le rattacher à notre projet. Et je trouve que c'était vraiment, en tout cas, le mobilier qui correspondait assez bien à la démarche de la résidence. Et là, c'est pas fini parce que c'est la restitution, donc c'est pas la fin de la résidence, mais j'ai des petits détails à finir. Mais il sera accompagné d'un livret. Dans ce livret, il y a toute la résidence qui est restituée. Et également un petit peu l'histoire de ce mobilier, donc du banc, à travers l'histoire du mobilier urbain. Parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un objet qui a eu vocation à faire lien dans des villes ou dans des campagnes entre l'habitat, donc la ville, et les habitants. Et comment on fait venir des gens dans des endroits pour qu'ils s'y prélassent, qu'ils s'y posent, qu'ils se reposent. Et ça a vraiment été un objet très, très, très utile, en tout cas, au cours des années. Et là, c'est vraiment la vocation qu'a cet objet-là, que les gens puissent s'en saisir. Et voilà. Je ne vous ai pas parlé du titre. C'est une énième dernière petite référence. Le dispositif s'appelle limousiné. Donc, c'est un terme que j'ai découvert ici au fur et à mesure de mes recherches. Ça renvoie à la... À l'ouvrage, voilà, à l'ouvrage de maçonnerie, le limousinage, qui est un ouvrage fait de moellons et mortiers. Mais j'avoue que Roland Nico serait mieux parler de moi. Et en fait, je trouve que c'est un terme, effectivement, qui renvoie justement à toute l'inspiration de la construction du projet. Mais aussi, limousiner, ça renvoie effectivement au territoire auquel est rattaché le projet. Et moi, je trouve que c'est un terme qui est assez parlant, joyeux, qui interpelle. Moi, ça m'a vraiment interpellée et j'espère que le projet aura le même effet sur les usagers, les gens qui vont le découvrir. Voilà. Pour finir, je voulais simplement faire quelques remerciements, moi aussi. Déjà, un grand merci au CIAP pour son accueil dans le château et au centre d'art. Un particulier à Camille pour son soutien sans faille. J'avoue qu'elle a été là quasiment quotidiennement et sa bonne humeur, ça m'a vraiment beaucoup aidée dans cette résidence. Alexandra aussi pour ton accueil et ta bienveillance. Et puis toute l'équipe, donc je les cite parce qu'ils ne sont pas nombreux, donc on peut les citer. Donc Anaïs, Gaëlle, Muriel, Michaela, Alexandre aussi pour ton aide à l'installation. Je crois que j'ai oublié personne. Merci également au PNR, donc Florence et Fanny, j'espère vous et Fanny, pour nos nombreux échanges, également leur bienveillance et leur soutien sans faille. À toute leur équipe aussi qu'on a rencontrée, Camille, Anaïs, Elodie, Guillaume, à Gérard Salvia aussi, qu'on a vu à plusieurs reprises. Toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le territoire, et je vais particulièrement citer les habitants que j'ai rencontrés parce que ça me tient vraiment à cœur, ils ne sont pas nombreux. Si j'avais eu plus de temps, j'avoue que j'aurais préféré faire beaucoup plus d'interviews pour avoir un plus gros échantillon d'habitants. Mais la résidence ne dure que 3 mois et même si ça peut paraître long, ça n'est pas vraiment. Donc j'ai rencontré Marianne, Aglaé, Thierry, Guy, Gérard, Sonia, Sabine, Jacques, Marie, Michel et Christine. Ils ne sont pas forcément là, sauf Gérard que j'ai vu. Mais je les remercie beaucoup. Merci également à Camille Deck, que je vois là-bas au fond. Et puis, merci à toutes les entreprises locales, et je pense particulièrement à la filature Terrate, qui n'est pas présente ici. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir travailler avec des laines locales, de valoriser aussi le travail des entreprises qui font vivre cette filière tant bien que mal. Voilà, et merci pour votre écoute. Et on reste à votre disposition pour des questions.
Fanala ne wari jeninye ne yusa oye sirata ye oye ne kasirata ye.
On peut dire que c'est une création collective du vivant.
Voilà, est-ce qu'on peut dire ça puisque...
Ah ben oui, c'est presque même la définition du paysage. C'est une création collective avant tout
dans,
Du vivant, sur le temps long. Alors du vivant et pas du vivant parce que, enfin, si, sauf à considérer que les pierres sont du vivant aussi, ce qui semblerait, oui, pour les géologues aussi. Il n'y a pas très très longtemps, j'étais en train de me promener avec un ami géologue et il me dit « Ne reste pas trop longtemps assis sur ce caillou parce que tu vas t'enfoncer dedans. » Je lui dis « Mais dans combien de millions d'années ?» Il me dit « Oui, c'est vrai, dans quelques millions d'années, mais c'est une potentialité. » Et il y a des philosophes, je pense à Olivier Remaud, qui tentent à nous faire penser que la montagne danse, c'est-à-dire que la montagne a des vibrations. Et en disant que la montagne a des vibrations, ce qui est vrai, pour lui, la montagne danse. Donc, la géologie est aussi du vivant. La géologie, c'est vraiment le substrat de la construction du paysage. Après, il y a la couche de terre. Ensuite, il y a ce qui pousse sur la couche de terre. Ce qu'on en extrait et ce qu'on en fait de tout ça, c'est la fabrication collective de ce qu'on appelle le paysage. Parce que le paysage, c'est pas que une peinture ou une belle photographie dans un tableau. C'est aussi parfois des endroits épouvantables. Parce qu'en effet, l'humain, dans sa grande mansuétude, en a fait un endroit épouvantable.
Alors, j'ai cru comprendre que ça a été une rencontre difficile, que c'est un paysage qui a été pour vous quelque chose, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'inaccessibilité ou qui c'est quelque chose comme un mur que vous avez dû dépasser ou déconstruire justement.
Oui.
Déconstruire pour reconstruire.
Oui, déconstruire pour reconstruire, c'est presque là, vous avez donné la définition de l'anthropologie. Parce qu'en effet... quand on a un anthropologue, quand il arrive, il sait rien, quoi. Enfin, c'est un idiot professionnel, j'ai souvent l'habitude de dire. C'est vraiment ça. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il faut être une espèce d'idiot professionnel, c'est-à-dire se poser plein de questions en se disant, mais déjà, un, qu'est-ce que je fais là? De qu'est-ce que tout ça fait là? Comment tout ça s'est construit? C'est des questions très basiques. Et oui, le paysage, moi, je l'ai pris en pleine poire, quoi. Alors, le questionnement au paysage est bien commun aussi. Puis alors, en arrivant ici, il faisait pas un temps génial. Je suis arrivé dans une zone particulièrement forestée. Moi qui aime bien les espaces ouverts, qui aime bien travailler dans les Alpes, où on prend de l'altitude assez rapidement, où on voit loin, il y a de l'horizon. Moi qui aime beaucoup les littoraux, où on voit la mer, etc. Et je suis arrivé là, j'avais l'impression d'être sous la mer, dans une espèce de mer végétale d'arbres. Dans tous les sens, puis parfois des arbres très sombres, très rangés comme des armées, hein, je pense aux résineux, etc. Heureusement, il y avait aussi des feuillus avec des forêts un petit peu plus anarchiques, voire même anarchistes, et je me disais, ouais, là je respire enfin, quoi. Puis parfois, hop, des landes et des tourbières, ouf, enfin, avec des moutons, ce qui m'était un des paysages un petit peu plus familiers quand même. Et les premiers temps, ce paysage très enforesté, je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Alors déjà, l'anthropologue est en marche. La réflexion se met en marche. Comment en est-on arrivé là? Puis la deuxième question, mais c'est comment ça marche, le paysage ici? Ça, c'est la grande question que posait notre grand frère S-Paysage, qui s'appelait Jean-Pierre Desfontaines, un géo-agronome de l'INRA. Comment ça marche? Et ensuite, je me suis posé cette question-là. Et ensuite, je me suis dit, mais comment je vais y marcher aussi? Et puis, voilà, la réflexion chemin faisant, c'est vraiment le cas de dire, parce que ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment chemin faisant. Je me suis dit, OK, je peux quand même arriver à m'orienter. Il m'a fallu une boussole. J'étais déboussolé, au vrai sens du terme. Il m'a fallu une boussole pour vraiment arriver à comprendre où était le nord, le sud, l'est et l'ouest. Parce qu'en effet, au début, il ne faisait pas super beau, donc je n'arrivais pas à me repérer avec le soleil. Et puis à partir du moment où j'ai su m'orienter, à partir du moment où j'ai marché, où j'ai lu aussi, et j'ai lu en marchant parfois, et j'ai écrit en marchant aussi, et puis je me suis posé des questions, j'ai même parlé tout seul sur les chemins, ça aussi c'est un grand exercice anthropologique, parce que personne ne peut vous répondre, si ce n'est tout ce qu'on a autour de soi. Ça m'est arrivé de parler, oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai posé des questions à des arbres, j'ai posé une question à un chevreuil, qui a juste levé la tête, ça m'a suffi. C'est une bonne réponse. Le paysage m'a répondu, et la réponse du paysage, j'essayais de la retranscrire le mieux possible en la photographiant, et en écrivant donc ce que j'ai appelé les koans pour le paysage, qui sont ces questions débiles que posent les maîtres zen à leurs élèves. Par exemple, la plus belle question posée par un maître zen, c'est « Quel est le bruit que fait une seule main qui applaudit ?» Le paysage, parfois, m'a posé ce genre de questions. Évidemment, ce n'est pas la réponse qui est intéressante, c'est la recherche, là, tout autour, quoi.
Souvent, les chercheurs disent que leur recherche part, leur questionnement part de l'émerveillement, d'un émerveillement. Or, d'après ce que vous avez dit, ce n'est pas ce qui a suscité ce questionnement. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est juste, que c'est l'hostilité ou un sentiment d'hostilité d'où est parti votre questionnement ?
Oui, 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 quelque part, moi je me suis senti agressé dans un premier temps par le paysage. Alors, j'avais déjà vu ces armées d'arbres en marche, notamment sur le Cosmé-Jean. Le Cosmé-Jean qui se situe en Lozère, au-dessus de Florac, il y a comme ça des grandes plantations d'arbres très sombres, mais heureusement à côté, il y a aussi des grands espaces très nus qu'on peut parcourir. Là, à un moment donné, oui, ça a été un émerveillement à l'envers au début. Mais ce qui a été vraiment intéressant, c'est que je suis passé par tous les états. Et ça, il y a très peu d'endroits en France où on peut passer par tous ces états à la fois de dégoût, d'émerveillement, parce qu'à la fin, ça conduit vers un émerveillement. Et en effet, c'est un paysage qui ne se livre pas facilement, quoi. Et pour cette raison-là, il est vraiment appréciable. Parce que les paysages qui se livrent facilement, finalement, c'est des paysages complaisants. Et la complaisance n'est pas intéressante. Là, c'est un paysage qui est compliqué. C'est un paysage mosaïque. C'est un paysage qui ne se laisse pas faire. C'est un paysage qui conteste. Et c'est un paysage qui raconte une sacrée histoire aussi, quoi, une histoire très très longue. On voit bien qu'il y a une épaisseur de temps long qui aujourd'hui est recouverte. Il y a une espèce de couverture végétale qui tente à gommer un peu les aspérités, notamment les reliefs. Mais on voit bien que tout ça n'est pas définitif. Ça va encore bouger, c'est en train de bouger. Il y a des endroits où il y a des gens qui s'organisent. Je pense à des gens que j'ai rencontrés qui ont fondé une association, tout un collectif où ils retravaillent des territoires qui étaient ouverts pour les replanter dans l'idée que le changement climatique va nécessiter de la culture sous les arbres parce qu'il va falloir retrouver de l'ombre et pouvoir faire recirculer de l'eau. Voilà, c'est la forêt tisserande, pour ne pas les nommer, qui font vraiment un travail fabuleux. Et puis, il y a des endroits où on voit bien que on réouvre les... Je ne dirais pas qu'on réouvre les paysages, on réouvre de l'espace, mais à grands coups de bulldozer. Donc, là, on voit qu'il y a vraiment des façons de se saisir du paysage qui sont très différentes, très contrastées, qui sont même opposées, mais qui cohabitent en ce moment et sans doute qui négocient. Et on voit bien, évidemment, que tout ça va encore évoluer. Revenons dans 100 ans et reparlons-en.
Est-ce qu'on peut dire que ce paysage est méfiant et qu'il, comme vous disiez, il ne se livre pas facilement ? Peut-être parce qu'il a, dans son histoire, il y a beaucoup de douleur, d'après ce que j'ai pu comprendre, et c'est peut-être ce qu'on ressent quand on arrive. La douleur, c'est peut-être ça, par ça qu'on se sent agressé, je ne sais pas.
Oui, mais la douleur, pour moi, fait toujours réponse la dignité. Ce sont des paysages humains qui sont très dignes aussi. Et les gens, je pense, d'ici, sont en quête de dignité aussi, c'est-à-dire de reconnaissance. Peut-être qu'à certaines époques de l'histoire, ils se sont sentis méprisés dans leur histoire. C'est un territoire où beaucoup de gens ont émigré. La question de l'émigration amène souvent celle de la honte. Malheureusement, je dirais, amène souvent celle de la douleur de la séparation, la douleur de l'éloignement. Et puis, quand on était parti, les gens ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Les Limousins qui partaient à Paris, les maçons Limousins qui partaient à Paris, ça a été une histoire complexe. Ça n'a pas toujours été très bien vécu sur le territoire, et notamment par les descendants, quoi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des populations migrantes aussi, d'Italiens qui partaient faire les bergers dans le sud de la France, comme ça. Leurs enfants pensaient que c'était une vie de chien. Quand je leur ai expliqué que non, à travers mon regard, on pouvait au contraire raconter une autre histoire et que c'était des vies très dignes, au contraire, qui s'étaient opposées à des choses comme le racisme, des choses difficiles, telles que le racisme, l'ostracisme aussi, mais qu'ils avaient réussi à en vaincre, eh bien ça change tout le regard sur cette histoire-là. Donc sans doute les paysages ici sont marqués par cette espèce de retenue. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de complaisance, il y a de la retenue, il y a de la discrétion aussi. Mais quand on commence à être à l'écoute, vraiment, on entend une toute autre histoire.
Alors, ma dernière question, c'est, est-ce qu'on peut maintenant, on dit faire partie du paysage, est-ce qu'on peut dire maintenant être le paysage ?
Être le paysage, oui, je pense qu'on est chacun, disons qu'en chacun et chacune d'entre nous, on porte des paysages, des paysages humains, à travers notre histoire et à travers ce qu'on aime aussi. Et quand on l'exprime et quand on le partage aussi, surtout quand on arrive à se rassembler avec des gens et qu'on se mette d'accord en négociant, en discutant sur ce qu'on aime dans ces paysages, on peut arriver à constituer une espèce d'image globale et voire même constituer un collectif pour défendre un type de paysage, défendre un lieu. Je pense à la question du bois du chat, par exemple, qui a été
remarquablement défendu. Enfin, ils ont construit des savoirs, ils ont réussi à rassembler des savoirs juridiques, à mettre en place des choses pour défendre ce territoire-là. Ce qui n'est quand même pas rien, quoi. Donc, ils portaient en eux quelque chose de « je tiens à ce paysage-là, voilà pourquoi je tiens, et je vais expliquer avec savoir et avec précision pourquoi j'y tiens », et ils ont gagné.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Avait beaucoup parlé de cette difficulté à rencontrer ce territoire. Et moi, la question que je me pose, c'est si, en quoi votre processus créatif a-t-il été influencé, affecté peut-être, ou est-ce qu'il y a des éléments que vous ne connaissez pas qui ont été convoqués? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans ce que vous avez pu ressentir ou avoir eu envie de faire?
Je dirais que ce qui a grandement contribué à, pour moi, à découvrir ce paysage-là, c'est les dernières rencontres que j'ai faites, donc des personnes que j'ai interviewées sur ces questions du paysage. Parce que, en fait, quand on les écoute, ils sont émus, quoi, quand ils parlent. Enfin, il y a 2-3 personnes qui ont pleuré, quoi, alors que c'était des questions très simples, quoi. Et en fait, j'ai eu l'impression de vraiment découvrir le paysage du Limousin à travers ses habitants-là. Et ça, ça a vraiment été révélateur dans le projet aussi. Mais comme en fait la rencontre avec Roland et René Nicou, dont je parlais au début, par rapport aux maçons de la Creuse, qui là, pareil, ça a été un déclenchement fort pour moi dans le projet, parce que je me suis dit, ouais, il y a ce patrimoine-là, il faut en faire quelque chose, quoi. On n'en parle pas, je ne peux pas ne pas l'inclure dans mon projet. Et donc, voilà, il y a 2 reprises, il y a eu ces moments-là de... Voilà, de déclenchement, si je peux appeler ça comme ça, qui m'ont permis de mieux entrer en paysage, de mieux comprendre le paysage du Limousin. Et ça a été effectivement très nourrissant pour le projet, la résidence, ma compréhension du terrain. Après, moi, je me suis sentie toujours bien ici. C'est juste que j'avais un peu la sensation de ne pas savoir par quel bout commencer cette enquête, parce que le PNR, c'est immense. On ne sait pas par quel... Alors, on dit qu'en bas, il y a des liens des tourbières, en haut, des grandes forêts, là-bas, des falaises, là-bas, des carrières d'ardoises. On ne sait pas par où commencer. C'est un peu... Donc, on se laisse un peu porter par les gens, finalement. Et c'est un peu ce qui s'est passé.
Très bien, merci. Et alors, moi, j'aimerais revenir sur
Limousiné.
Limousiné, voilà. Un mur de pierre que vous avez reconstitué avec de la feutrine. Et moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à des coussinets. C'est à la fois, avant que vous évoquiez le nom, c'est à la fois, on sent la dureté de la pierre et en même temps la douceur de la feutrine. Et ça fait vraiment penser à des coussinets. Voilà ce que ça m'a évoqué. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose.
Bah c'est, en tout cas, c'est une impression que je cherchais ou je savais plus ou moins que ça allait être produit. C'est un peu la magie du feutre. Donc je me permets de vous reprendre. La feutrine, c'est pas...
Feutre.
On dit feutre de laine, ouais.
Pardon.
Feutre, non, mais
ouais,
c'est
bien.
Comme
c'est
ça,
bien.
Vous savez.
Oui.
En fait, c'est la dualité entre justement ces objets-là. C'est qu'on a l'impression de loin que c'est des cailloux, que ça va être très dur. Et puis, on est assez surpris par le réconfort de la matière. Et j'avais aussi envie de provoquer un peu ce sentiment-là, quoi, de ok, on est en confiance, on peut regarder le paysage, on est bien assis, on a envie d'y rester un peu quand on est assis dessus. Donc j'espère que les gens resteront pour prendre le temps et ralentir un peu leur rythme, quoi. Mais oui, j'avais plus ou moins l'idée que ça allait provoquer cette sensation.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ma chérie, ou yen wele kan dogo ya mon amour.
chérie.